Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les médecins et les patients dans la même galère. La médecine moderne, dominée par le marché, serait à l'origine de relations totalement bouleversées entre médecins et patients, entraînant un écart de plus en plus grand entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Tel est en tout cas le postulat de mon invité, qui est médecin généraliste, enseignant à l'université, écrivain, passionné d'histoire des sciences et d'anthropologie, et qui est l'auteur aux éditions Le Pommier des nouveaux paradoxes de la médecine. Luc Perrineau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous proposez dans votre ouvrage toute une réflexion sur ces changements de la médecine moderne en proposant de revenir à une médecine libérée justement des pressions marchandes afin de renouer avec un contact plus direct entre le médecin et son patient. L'occasion de parler avec vous du marketing, de l'omniprésence de la maladie aujourd'hui ou encore de l'utilité ou non du dépistage précoce. Ça fait beaucoup de thèmes très intéressants qui font partie donc de ces paradoxes de la médecine. On va se retrouver dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà.
Avec plaisir.
Franceinter.fr et puis Twitter avec le hashtag l'attaque. Le dernier quart d'heure de l'émission sera consacré, comme tous les jours, à l'actualité des sciences, des technologies et du web. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu Villard.
Vous nous livrez quelques éléments du sommaire, Axel ?
Oui, alors aujourd'hui on verra que les orangs-outans font eux aussi leur valise. Des Suisses ont découvert que les grands singes sont capables de planifier leur migration. On découvrira le site français Boobstagram qui soutient la lutte contre le cancer. Et on fera un tour dans un vignoble de l'INREA où des chercheurs mènent des recherches pour une œnologie de précision.
Voilà donc pour le sommaire de cette Tête au carré, une émission qui est réalisée par Violaine Ballet et qui a été préparée par Chantal de Montagnier et Anne-Cécile Perrin. Bienvenue à tous.
La Tête au carré, jusqu'à 15h sur France Inter.
You're nothing but a dirty, dirty old man. You do your thinking with a one-track mind. You keep preaching about heaven and glory, but on your face it shows a different story.
Clean up your app, your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. I can't believe nothing you say.
Slick, but you can stand a little greasing. The things you do ain't never really pleasing. I can't believe nothing you say, 'cause I'm around and I see what you do. You know ya.
Yourself up on a big stool. Nothing worse than an educated fool. Talking sex is your favorite conversation, but peace and love is a thing this generation.
What's in your head has really started showing. Your conversation is getting kind of boring. You're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of a weaver.
Aik et Tina Turner à l'instant sur France Inter.
La tête.
Du point de vue cardiovasculaire, le malade est parfait. Du point de vue cérébral, il nous donne des soucis.
Aucune importance, ça ne nous gêne pas du tout.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Le médecin généraliste Luc Perrineau est donc l'invité aujourd'hui de La Tête au Carré pour parler de l'évolution de la médecine moderne et puis des conséquences qui en découlent dans la pratique clinique entre les médecins et les patients. Les messages donc des auditeurs arrivent, franceinter.fr et Twitter avec le hashtag l'attaque. Luc Perrineau, donc vous êtes médecin généraliste, ça fait plus de 30 ans maintenant
hein, oui, plus, oui.
Que vous exercez. Vous êtes professeur aussi à la faculté
voilà,
de Lyon.
Je suis chargé de cours à la fac de Lyon.
Ouais, qu'est-ce que vous enseignez?
Alors surtout l'histoire de la médecine, donc les sciences humaines et sociales et l'épistémologie, c'est un plus grand mot, mais j'essaye de...
Ouais, parce que vous êtes passionné d'anthropologie, d'histoire
alors, donc,
des sciences.
Ça, c'est depuis toujours. Voilà, l'histoire des sciences me plaît beaucoup, l'histoire de la médecine particulièrement, évidemment.
Ouais. Et vous êtes également intéressé par la médecine évolutionniste. Qu'est-ce que c'est quand on s'intéresse à Darwin? On se dit, tiens, comment
voilà,
ça fonctionne?
J'ai écrit un ouvrage sur Darwin, donc Darwin m'intéresse beaucoup. Et on se rend compte que la biologie, donc, qui est la biologie qui est exactement l'étude des sciences de l'évolution, en fin de compte, la biologie est assez absente du cursus médical et les étudiants ne font pas de biologie de l'évolution. Et avec quelques chercheurs du CNRS et quelques personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros hiatus.
Oui.
Et donc, on essaye d'introduire la pensée évolutionniste dans le cursus des études médicales. Ce n'est pas une partie gagnée d'avance, mais en fait, ça peut nous apporter beaucoup de choses sur la réflexion, notamment sur ces fameuses pathologies chroniques, ces fameuses pathologies plurifactorielles. On peut comprendre beaucoup de choses. Et donc, il faudrait introduire ça à l'université, ce qui n'est pas encore fait en France et nulle part. Ça commence un peu aux États-Unis, mais en France, pas du tout.
Vous dites que la médecine a complètement raté son rendez-vous avec les sciences de l'évolution.
Ah ben ça c'est clair, parce que la médecine a été fondée essentiellement au départ, donc si on va loin, sur l'anatomie. Hein, c'était une science au départ, c'était la chirurgie, l'anatomie, et puis cette fameuse théorie des humeurs qui a duré des millénaires. Et la construction donc, du diagnostic, la construction de la clinique s'est faite bien avant que n'apparaisse la théorie de l'évolution. Donc la médecine était déjà mûre au moment où est apparue la théorie de l'évolution, donc la science biologique, puisqu'on peut, il y a une homonymie entre biologie et évolution. Et en fait, à ce moment-là, il y aurait pu avoir des passerelles qui aient lieu, mais il n'y en a pas eu, pour des raisons que j'ignore, historiques. La médecine a évolué et la biologie de son côté. Et là, il faut qu'elle se rencontre de nouveau.
Voilà, donc elle a évolué sans l'évolution, au fond.
Elle a évolué de son côté sans l'évolution, exactement.
Est-ce que comme Darwin, Luc Perrineau, vous avez pris un grand bateau pour parcourir les océans du monde?
J'ai eu la chance de pouvoir exercer la médecine dans plusieurs continents. Ah, c'est vrai, c'est une chance que j'ai eue qui m'a permis de voir la diversité des pathologies, des patients. Mm-hmm. Donc c'est vrai, j'ai fait ça. Donc ça m'a sans doute un peu ouvert l'esprit à toutes les formes du soin.
Alors vous êtes écrivain, c'est le huitième ouvrage, c'est Nouveau paradoxe de la médecine qui est sorti déjà l'année dernière aux éditions Le Pommier. Et puis vous êtes blogueur aussi, très actif.
Alors je me rends compte que le blog est un bon support pour essayer de vulgariser ce que j'essaye. Moi, ma grande ambition, c'est d'essayer de vulgariser ce que j'appelle la science clinique. Et je trouve que le blog, c'est un bon support. Le bouquin, parfois, c'est peut-être un peu rébarbatif, un peu difficile d'accès. Et avec le blog, on touche sans doute plus de personnes.
Ouais. Et vous y livrez vos humeurs médicales.
Voilà, c'est ça, sur le journal Le Monde, journal généraliste aussi.
Ouais. Donc vous êtes un médecin tout-terrain. On peut dire un peu les choses comme ça.
Si vous voulez, un vrai généraliste, un vrai omnipraticien, un vrai clinicien, on va dire ça comme ça.
Ouais. Hein, c'est quoi, au fond, un médecin généraliste aujourd'hui?
Alors, on va essayer de faire simple, de trouver une métaphore. C'est celui qui est le plus apte à faire la passerelle entre les sciences biomédicales et le soin individualisé.
Mmh. Voilà, le soin clinique ?
Le soin individualisé, c'est-à-dire que j'adapte ma connaissance des sciences biomédicales actuelles, qui sont, comme vous le savez, qui ont fait d'énormes progrès, je l'adapte au cas qui est devant moi et je tiens compte de l'expertise que j'ai moi, de la clinique et de l'expertise de l'individu que j'ai en tant que praticien. J'ai une expertise d'individu. Et je dois faire la passerelle entre les deux. Entre les deux, empêcher que l'un déborde sur l'autre et que l'autre déborde sur l'un. C'est un art difficile.
Oui. Alors, vous avez même un temps travaillé pour l'industrie pharmaceutique. Ça n'a pas duré longtemps. Mais
c'est une expérience très riche et très ésotérique dans ma vie et très riche. Bon, c'est comme ça, c'est un concours de circonstances. Je me suis trouvé à Lyon et voilà, j'avais un carnet d'adresses en Chine qui intéressait. Et j'ai travaillé et c'est là que le praticien que j'étais, naïf et innocent, a découvert, éberlué, comment peut se trafiquer l'information. Éberlué, c'est le mot qui convient. Et c'est aussi ce qui m'a permis de connaître le milieu de l'entreprise. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on est dans une profession libérale, individuelle, on ne connaît pas le milieu de l'entreprise et toutes les causes de pathologies dans l'entreprise. Donc ça m'a été très utile pour deux choses. Et en plus, c'est enrichissant parce que ça m'a permis de voyager, de rencontrer des gens dans plusieurs pays. C'est une petite phase de ma vie, mais très intéressante.
Ouais. Alors justement, pourquoi est-ce que vous mettez les médecins et les patients dans la même galère, Luc Perrineau?
Alors, on dit souvent, j'ai tenu à insister là-dessus, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on dit souvent que finalement, les patients, c'est ce qui ressort souvent, les patients, se plaignent du manque d'individualisation du soin. C'est la plainte, j'allais dire, constante. Quoi que vous lisiez sur la médecine, tous les essais que vous lisiez sur la médecine, c'est effectivement cette séparation qu'il y a entre le soin individualisé et les sciences biomédicales. Ils s'en plaignent. Mais les patients ne sont pas les seuls, en fait. Les médecins aussi. Les médecins se rendent compte que, justement, il est de plus en plus difficile de retrouver son patient au niveau d'une vérité scientifique. Donc, la souffrance est la même des deux côtés du stéthoscope, comme je dis souvent. Alors, la souffrance des médecins, on ne peut pas la comparer à celle du patient, bien sûr, qui, lui, est un profane. Et puis, le médecin, il compense cette souffrance parce que ça lui rapporte.
C'est son avantage.
Voilà, c'est son avantage. Cette difficulté qu'il y a, cette multiplication des actes, lui rapporte financièrement. Donc, il est plus discret, sans doute, dans sa contestation du système, tout simplement parce qu'il y a un avantage. Il faut être réaliste dans la vie, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Donc, mais les deux, il y a une souffrance des deux côtés. Et c'est d'ailleurs sans doute parce que le médecin est subordonné de fait à cette prépondérance du marché, à cette prépondérance des biais.
Ça, c'est vraiment la raison principale qui explique cette situation aujourd'hui de la médecine moderne.
Je pense que là, on est arrivé à un point critique. On est arrivé à un point critique sur la prépondérance du marché dans la formation de la pensée médicale. Non pas seulement dans la pensée, dans la formation de la pensée médicale. C'est un point critique dont le public a tout à fait conscience, mais il l'exprime mal. Et donc, les médecins, eux, sont subordonnés de fait à cela. Et peut-être, alors je ne vais pas prendre un langage psychanalytique, mais ils le refoulent. Et ce refoulement contribue à leur malaise.
Alors justement, l'idée de l'histoire des sciences, c'est de pouvoir dérouler un peu le fil pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans cette histoire.
Oui, bah évidemment. Pourquoi on en est arrivé là? Alors là, c'est vraiment du travail d'historien. En tout cas, moi, je vois une raison, quelques raisons majeures. Il faut essayer de se placer, alors je simplifie l'histoire, évidemment quand on fait de l'histoire, on résume beaucoup, il faut simplifier avant ce que les historiens appellent la révolution pasteurienne, et après. Alors révolution pasteurienne, ça englobe en gros, pendant Pasteur, puis après, puisque j'inclus les antibiotiques dedans, vaccins, hygiène, antibiotiques. Ça, c'est la grande triade magique qui a fait que la médecine est passée de l'ère préhistorique à l'ère moderne, soyons clairs. Et donc, cette triade a fait gagner, en gros, 20 années d'espérance moyenne de vie à la naissance à tous les peuples occidentaux. Et donc là, c'était assez clair, on avait trouvé la cause principale des maux. C'était des ennemis externes.
Très identifiables.
Identifiables, on les a identifiés, Pasteur les a identifiés, beaucoup d'autres, Koch, tout le monde les a identifiés. Et puis après ça, la médecine, c'était le miracle. Les gens ont commencé à croire à la médecine. Ils se sont dit, mais quand même, les médecins, c'était plus les médecins de Molière. Ceux-là, ils pouvaient vraiment nous guérir et surtout, ils pouvaient nous empêcher de mourir, ce qui n'est quand même pas négligeable du tout. Et puis après, la médecine s'est presque trouvée face à une crise d'identité. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et donc, tout s'est inversé. Avant, c'était les patients qui apportaient leurs plaintes, leurs souffrances, leurs blessures aux médecins, à la médecine. Ils apportaient leurs plaies de guerre, ils apportaient ça. Et après, ça s'est fait en quelques années. Le paradigme, pour employer un grand mot, tout s'est inversé. C'est la médecine qui a apporté des sujets de plainte aux patients. Il faut insister là-dessus parce que c'est une inversion complète. Aujourd'hui, ce ne sont plus les maladies qui créent la médecine. C'est la médecine qui crée les maladies. Je simplifie un peu, c'est grossier, excusez-moi, on a peu de temps. Et donc, tout s'est inversé. Donc aujourd'hui, on confond encore facteurs de risque et maladie, ça n'est pas la même chose.
Ah, on va y revenir évidemment avec vous, Luc Perrineau. Je voudrais juste qu'on écoute un document parce qu'il est important. Justement, vous évoquiez cette révolution pasteurienne avec cette date du 7 avril 1864. On est quelques années après Darwin, justement.
Après tout s'est fermé.
Et la publication de l'origine des espèces.
C'est une période riche, oui.
Ouais. Donc il y a Pasteur, il y a la vaccination et ce personnage central, le tout premier en tout cas, Joseph Meister. Et il y a un document où on entend sa voix. C'est lui qui s'est fait vacciner contre la rage.
Je l'ignorais.
Voilà, on l'écoute.
Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Vous avez sans doute conservé les meilleures relations avec Pasteur.
Parfaitement. Il s'est toujours inquiété de moi, et c'est grâce à lui que je suis revenu à Paris. J'ai même travaillé un certain temps avec M. Pasteur lui-même dans son institut fondé en 1888.
Voilà, c'est en 1939.
Hein, d'accord.
Ce document avec Joseph Meister.
J'irais.
Et donc Pasteur, évidemment, avec cette première vaccination. Vous parlez ensuite d'une véritable crise identitaire de la médecine après cette période. Pourquoi exactement?
Alors, si vous voulez, les médecins qui avaient, on va dire, en gros, toujours été moqués, parce que finalement, ils échouaient tout le temps. Hein. Si on lit l'histoire de la médecine, c'est un peu lamentable, même comme la médecine échouait tout le temps. Alors, quand je dis médecine, je ne dis pas chirurgie, hein, c'est un peu différent. Hein. La médecine seule ne réussissait pas. Et ils étaient moqués. Et là, il s'est quand même passé quelque chose qui était extraordinaire, c'est que là, du jour au lendemain, on a quand même enrayé les plus graves maladies, on a contribué à l'hygiénisme, à l'hygiène. Et donc, l'histoire pouvait s'achever. Hein, comme l'histoire pouvait s'achever. On avait vaincu tout ce dont on avait le plus peur. Et donc, il fallait trouver autre chose. Il fallait trouver autre chose pour faire survivre la médecine. Donc, c'est un peu une crise identitaire. J'exagère peut-être en disant ça, mais bon, maintenant, on va chercher les moyens de vivre encore plus et encore mieux, encore plus longtemps. Et ça, c'était pas évident. Donc, il fallait trouver. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a débordé les médecins, je crois. C'est une énorme révolution technologique. Donc là, on se place en gros milieu du 20e siècle.
Hein.
Voilà, milieu.
Et ça, c'était trop brutal.
Ça a été trop brutal parce que, si vous voulez, les médecins avaient construit leur science clinique et diagnostique. C'était leur privilège. Le diagnostic était le privilège des médecins. Ils l'avaient très bien bâti, toutes les méthodes anatomocliniques, Laennec, Charcot. Mm-hmm. Ils avaient bâti ça minutieusement pendant deux siècles, on va dire. Et brutalement, la technologie les déborde complètement. Ouais. Elle leur donne sur un plateau...
Il y a trop de données, quoi,
voilà,
au fond. Hein.
Elle leur donne sur un plateau tout ce qu'ils ont mis deux siècles à bâtir. C'est tout fait. En gros, on n'a plus besoin de vous, quoi. En gros, on n'a plus besoin de vous. Donc, ils avaient vaincu les maladies infectieuses en grande partie. Et le diagnostic, qui était leur seule fierté, en fin de compte, parce que ça avait été élaboré vraiment minutieusement par la science médicale pure, on peut se passer de vous. Donc, ça a été vraiment une crise identitaire, je crois. On peut l'analyser comme ça, d'un point de vue historique.
Oui. Donc, on a été surpassé, au fond, par la connaissance du corps humain. Parce que c'était ça.
Sûr,
on avait tous
sûr.
Les outils pour aller à l'intérieur du corps. Et on en bénéficie encore très largement aujourd'hui, évidemment.
Mais on peut
puisque la technologie s'améliore d'année en année.
Voilà.
Et vous pensez qu'aujourd'hui, on est encore victime, d'ailleurs, de ce trop-plein d'informations
Les patients... Alors, la plus grosse victime, c'est sans doute la Sécurité sociale, pour faire un aparté français. Mais les deux victimes sont... Effectivement, les patients qui sont sans doute inondés d'analyses et d'examens dont ils n'ont pas besoin, et les médecins qui ne savent plus gérer cet afflux d'informations qui n'a bien sûr souvent plus de rapport avec ce qu'on appelle les données, les fameuses données cliniques. D'accord, j'ai ça, j'ai cette analyse, j'ai cette image, mais mon patient, lui, qu'est-ce qu'il a? Lui, c'est ça qui compte.
Oui.
Voilà. Et donc, l'écart entre les deux se creuse de plus en plus.
Oui. Et on voit justement qu'avec ces outils, on peut aller évidemment de plus en plus loin dans la connaissance. Et anticiper aussi, évidemment, le diagnostic. Ça, c'est un vrai problème dont on va parler avec vous tout à l'heure, Luc Perrineau. Parce
que
c'est vrai qu'on peut vraiment prendre un recul immense qu'on n'avait pas avant et voir les choses... À la source.
Ah là, on aborde un aspect philosophique existentiel presque, là. On peut aller très loin, oui, bien sûr.
Pourquoi le sida a modifié aussi ce contexte très particulier de la médecine dans les années 80?
Alors, il y a une coïncidence assez intéressante, qui est donc ce que j'appelle la fin, la période post-pasteurienne, la fin des maladies infectieuses. Et il y a un silence, il y a le calme serein où il n'y a pratiquement plus de nouvelles pathologies infectieuses qui durent en gros 30 ans, on peut dire 30-40 ans, je ne sais pas exactement. Et ces 30, alors pour l'Occident du moins, ces 30 ou 40 années, je parle de l'Occident essentiellement aujourd'hui, bien, pour l'Occident, ces 30-40 années correspondent à ces fameuses 30 glorieuses où il y a eu cette explosion technologique en même temps. Et donc là, c'était sans limite. On avait vaincu les maladies essentielles. On avait un accès au corps par tous les moyens pour trouver tout ce que l'on voulait. C'était merveilleux. On avait cette fameuse promesse de l'immortalité qu'on attendait depuis si longtemps. Et patatrac, arrive le sida. Et le sida est mal tombé parce qu'il arrivait aussi à la fin des Trente Glorieuses. Mmh. Et là, le sida, il nous a donné l'idée de notre finitude, d'abord, et puis de l'incomplète révolution pasteurienne, finalement, avec les virus émergents qui sont arrivés d'autres après le sida, bien sûr.
Claude nous envoie ce message. Le serment d'Hippocrate peut-il être suivi au sens strict? Comment respecter une population, les médecins prononçant un serment, mais ne le respectant jamais ou bien trop rarement, dit Claude?
Oui, c'est une question. Voilà, oui, bien sûr, sans doute, c'est difficile à respecter. Je ne peux pas bien répondre à cette question. C'est entre la théorie et la pratique, comme on dit, la différence est énorme.
Allez, on se retrouve dans un instant. Luc Perrineau, d'autres messages pour vous sur franceinter.fr.
À l'autre bout de toi, à l'autre bout de mes tropiques, frappé trois fois. Une fois la porte claquée. Une fois nos corps pris au piège. Aucune issue de secours. Nos mains sur le plancher. Chargé de retenir ce qu'il nous reste à faire, chargé de saisir les parcelles des terres, l'amour empoisonné, le grand ménage, les romans printaniers. Moi de passage, toi sans passé, allez, allez, à l'autre bout de toi. Des jours meilleurs, des jours d'hiver, comme une ode à la nuit. Une délivrance, une folie ordinaire, un facteur chance, comme un rideau de pluie, une connivence. Tu me ravis comme un courant d'air pur, à mes visites de courtoisie, je respire en tes murs. Nous trinquons à nos tragédies, comme un rideau de pluie, à nos désirs impurs. Quand je te sais sans fond, quand je te vois sans vie, aller jusqu'au bout de l'asphyxie. Un autre bout de toi, un autre bout de notre pic, frapper cette fois contre des portes fermées, cette fois des corps qu'on assiège, sans un seul cri de secours. Mes yeux sur le plancher, chargés de souvenirs, ce qu'il nous reste à terre, sommé de soutenir. Un regard évité, le vent soufflant les verres, le grand manège, des carrosses oubliées. Toi de passage, moi sans passé, allez, allez, un autre bout de toi, à l'autre bout d'un quai perdu. Comme des singes des jours d'hiver, comme une veille de la Toussaint, comme une nuit sans teint. Et je m'avance, puis je recule, des pudeurs ridicules, une correspondance. Je te ravis, c'est un enlèvement, un soulèvement, un appel d'air. Et je tourne en tes bras, dans une absence passagère. Comme un ravissement, loin du spectaculaire, à cet amour muet, à cet amour fuyant, à cet amour tentaculaire.
Tropique et c'est Messia sur France Inter.
Et du magnésium, non?
Ouf, oui, vous pouvez en prendre, je vais vous en mettre. Enfin, à part ça, le magnésium, hein, ça se fixe pas. On sait pas grand-chose là-dessus. Si vous faites deux examens à très peu de temps d'intervalle, les résultats seront complètement différents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et pour cette histoire de tension un peu basse, qu'est-ce qu'on fait alors?
Oui, elle est un peu basse. Mais si je vous prends votre tension dans 10 minutes, c'est la même chose. Elle peut très bien avoir monté, vous voyez.
Ah, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Ben voilà, exactement.
Ah, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous m'aviez donné une cure de Stimusil, hein, pendant 2 ou 3 semaines. J'ai l'impression que ça avait bien réussi,
ouais,
ça.
Ça a bien marché. Oui. Je vais vous en mettre. Alors, le glitanox, attention, hein. Il y a des petits effets secondaires. Alors là, vous arrêtez tout de suite, évidemment.
Quel genre d'effets secondaires?
Des rougeurs, des bouffées de chaleur, des picotements.
Ah, mais j'en ai tout le temps, moi, des bouffées de chaleur, des rougeurs, des picotements, alors ça, c'est...
Bon, on va enlever le glitanox.
Ah, voilà, ça me le fait, là. Ah, j'ai mal dans la poitrine, j'arrive plus à respirer. Mais j'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Ridicule.
Voilà, extrait donc, on connaît la chanson d'Alain René avec Jean-Pierre Bacri. Apparemment, vous avez apprécié cet extrait, Luc Perrineau. Hein.
Oui, c'est amusant, bien ouais, sûr.
Vous en rencontrez souvent des patients comme ça?
Oui, c'est pas trop caricatural. C'est un peu quand même, un peu. C'est normal, c'est du cinéma.
Allez, on vous reçoit à l'occasion de ce livre, Les nouveaux paradoxes de la médecine, qui est publié aux éditions Le Pommier. Parlons du pouvoir des médecins, d'ailleurs, aujourd'hui, par rapport précisément au marché. Ce pouvoir a complètement changé.
Alors, vous parlez du pouvoir des médecins ou du pouvoir de la médecine?
Du pouvoir des médecins par rapport aux patients, précisément.
Alors, la médecine a un énorme pouvoir. Un énorme pouvoir, puisqu'on est en train de faire de notre société une société qui est malade de façon permanente. Hein. Donc la médecine s'est imposée au sens où on a toujours besoin d'elle, puisqu'il y a une omniprésence de la maladie. Hein. Plus une société est objectivement en bonne santé, plus la maladie est omniprésente. Ça, c'est intéressant quand même. Alors, d'un point de vue de la médecine, on peut considérer que c'est un échec, si on veut employer un grand mot, un échec téléologique, puisqu'on a raté le but, puisque tout le monde est toujours malade. Oui. Par contre, c'est un succès au niveau commercial, hein, oui, puisque vous avez en permanence une augmentation de l'offre et de la demande.
Oui. Donc pourquoi c'est... Justement, en raison de quoi? De la technologie, précisément, aussi, par rapport aux outils qui nous sont donnés?
Parce que je crois qu'il y a une demande... Il y a une demande de la part du public, on va dire, ce mot me plaît pas bien, mais j'en ai pas d'autre, du public, de ne jamais être malade. On doit jamais tomber malade. Mmh. Et puis, il y a une offre considérable de projets pour ne jamais tomber malade. Hein, on vous propose des tas de solutions pour ne jamais tomber malade. Prenez ça, vous n'aurez jamais d'accident cardiaque. Prenez ça, vous n'aurez jamais de maladie neurodégénérative. Et prenez ça, entre guillemets, vous ne mourrez jamais. Donc, là, c'est très vendeur. Ça, c'est très vendeur. Donc, forcément, quand vous avez un énorme marché, vous avez un énorme pouvoir. Devant les décideurs, simplement. Il faut savoir que le marché de la sanitaire dans les pays occidentaux, je crois que c'est 10 ou 11% du PIB. Donc, par rapport aux décideurs politiques, on n'est jamais négligeable quand on offre un tel marché.
Laurent nous envoie ce message. La disparition de l'obligation de permanence des soins, écrit-il, et ses effets sur les urgences, n'est-elle pas un exemple flagrant de la détérioration de la relation patient-médecin?
Alors je dirais que c'est d'abord un exemple flagrant de la détérioration de l'organisation des soins. Et plus les soins sont désorganisés, plus effectivement ça dégrade les relations interindividuelles.
Autre message de Patrice, les relations de confiance patient-médecin, surtout vis-à-vis de spécialistes, sont primordiales. Sujet à une hernie discale, j'ai pu mesurer l'écart d'interprétation de radio, autre IRM, de chirurgien, ayant un avis contradictoire quant au traitement à y apporter, allant jusqu'à dénigrer leurs collègues. Qui croire, demande Patrice, dans ces cas-là?
Alors là, c'est toujours délicat de répondre à ces questions, parce que c'est un cas individuel. Donc là, il est tombé sur un désaccord entre des médecins, ça doit arriver souvent, mais c'est difficile de répondre sur un cas individuel. Là, il faut vraiment voir le cas clinique avec précision.
Ouais. Dominique nous dit ceci. Est-il possible un jour que les médecins puissent avoir devant eux, non pas un patient ou pire un malade, mais une personne à part entière, une personne qui a une maladie et non quelqu'un qui est malade? Avoir une maladie est bien différent d'être malade. Quand les médecins nous aideront-ils à sortir de cet état d'être?
Ça, c'est la question. Donc, c'est ce que l'on disait au début de l'émission. C'est tout l'écart qui va en se creusant entre les sciences biomédicales et le soin individualisé. Notre but de praticien, c'est d'améliorer le soin individualisé, sans bien sûr dénigrer jamais la science dont on a besoin, et en remettant toujours le patient au centre du problème clinique. Parce que il y a quand même, au départ, une plainte, en théorie, bien que maintenant, la majorité des pathologies décrétés par la médecine sont sans plainte. Mais au départ, quand on voit un patient, c'est parce qu'à l'origine, il y avait une plainte et on doit s'attacher à cette plainte et à rien d'autre.
On a quand même une drôle de relation avec notre organisme aujourd'hui, Luc Perrineau, dans nos pays occidentaux en particulier, parce qu'on considère que l'organisme est potentiellement un ennemi.
Voilà. Alors là, c'est très intéressant. C'est toujours, on peut faire le rapport toujours avec la révolution pasteurienne. L'ennemi était externe, il est devenu interne. Ouais. Chaque protéine, chaque gène, chaque synapse, chaque métabolisme est un ennemi potentiel qui va un jour dysfonctionner. C'est intéressant d'un point de vue philosophique et je trouve ça passionnant. On n'a que des ennemis internes en nous. Ils sont en nous. On les recherche toujours. Même s'ils ne doivent jamais se manifester, on est à l'affût de celui qui va nous. Ouais.
Et qu'est-ce que ça dit justement du reste, quoi, de l'environnement, de ce qui se passe à l'extérieur? Ça joue aussi sur l'organisme aujourd'hui. On en tient compte ou pas?
Vous parlez
de tous les facteurs qui peuvent rendre malade.
Il y a de toute façon, ça c'est la définition de la biologie. En biologie, il est inscrit, la mort individuelle est inscrite dans l'histoire de la vie. La vie n'existerait pas si la mort individuelle n'existait pas. Donc, par définition, la vie, c'est la reproduction permanente, là, on est dans Darwin, mais chaque organisme individuel doit passer pour générer un autre organisme qui sera sans doute mieux adapté à l'environnement. Donc, l'environnement est toxique, par définition.
Ouais. Luc Perrineau, vous évoquez cette notion intéressante de porteur sain.
Alors ça, c'est passionnant.
Comment ça a été inventé, ça ?
Vous abordez trop de sujets, j'y arrive plus.
Oui, mais on vous suit quand même.
J'y arrive plus, ma tête s'embrouille. Alors, ouais. le porteur...
Mais ça poursuit cette idée, justement, que l'organisme est potentiellement un ennemi, en tout cas qu'on l'envisage mal.
Voilà. Alors, la notion de porteur sain, c'est très intéressant, parce que quand même Pasteur lui-même et Koch, qui sont les deux grands infectiologues, disons, du siècle dernier, disaient, c'est vrai que les microbes, c'est important, c'est eux qui donnent les maladies, mais finalement, le terrain... Et encore plus important, eux-mêmes le disaient, tous les deux l'ont dit, ils étaient d'accord là-dessus. Le terrain est très important. Et on s'est rendu compte très vite qu'on avait en nous énormément de microbes pathogènes, mais qui ne donnaient pas de maladies. Et donc ça, c'est intéressant parce que là, on est dans la médecine évolutionniste. Là. C'est-à-dire qu'on peut vivre en équilibre avec plein d'ennemis, même externes, qui deviennent internes. On peut vivre en équilibre. Et alors, ce qui est amusant, on peut dire amusant, bon, c'est pas le bon mot parce que quand il est question de vie ou de mort, c'est pas amusant, mais dans le cancer, on aurait dû intégrer cette notion de porteur sain. Mmh. C'est-à-dire que l'individu et vous comme moi, au moment où je vous parle, nous sommes porteurs sains de nombreuses cellules cancéreuses. Ouais. Vous comme moi, moi j'en suis certain, vous peut-être, je ne sais pas, moi j'en suis certain. Nous sommes porteurs de cellules cancéreuses, mais nous sommes des porteurs sains de cellules cancéreuses. Donc, c'est intéressant d'intégrer cette notion.
Ouais. On peut être porteur sain. Est-ce qu'on admet cette idée aujourd'hui ? Les médecins comme les patients, d'ailleurs, on a du mal à admettre ça.
Ça, c'est très difficile à faire admettre. Quand on dit ça, on passe pour un marginal, on passe pour un irresponsable, comme on m'a dit souvent, parce que si on dénigre l'idée que le cancer, à partir du moment où il a mis sa première cellule dans l'organisme, va irrémédiablement et inéluctablement entraîner une mort atroce dans les mois ou années qui suivent, si on conteste cette idée, on est un irresponsable. Hein, c'est qu'on dit. Alors qu'au contraire, il faut se dire, mais non, soyons sereins par rapport à ça. Nous sommes un organisme qui est un écosystème complexe lui-même et qui est porteur sain de beaucoup de choses potentiellement dangereuses, comme des microbes, des cellules cancéreuses.
Alors là, il y a un vrai problème éthique avec ça, avec les outils d'ailleurs. Parce qu'avec le dépistage précoce et le fait de pouvoir de plus en plus précocement détecter des cellules cancéreuses, alors que peut-être que ces cellules ne développeront jamais de pathologies graves, on est face à un vrai problème. Parce est-ce qu'il faut informer les gens très tôt, et en tout cas les outils le permettent aujourd'hui?
Alors je dirais que par rapport à ça, on est devant un problème absolument insoluble. Pour des raisons politiques, éthiques, démagogiques, commerciales, mercatiques, tout ce que vous voulez. Mon petit cerveau n'y suffira pas, j'y arriverai pas.
Vous avez peut-être des pistes à nous livrer quand
voilà,
même.
Voilà, j'ai des pistes, mais...
Il y a surtout des exemples très particuliers.
On est devant un problème insoluble parce que vous ne pouvez pas faire comprendre à quelqu'un, et c'est toujours très douloureux même par rapport aux patients de dire ça, quelqu'un par exemple qui a eu un dépistage du cancer du sein, on va dire, les plus emblématiques, ou de la prostate, peu importe. On lui a trouvé des cellules cancéreuses dans son organe, dans son sein, dans sa prostate. On lui a enlevé, ce qu'il fallait faire, évidemment. Une fois qu'on les a trouvées, il vaut mieux les enlever, c'est normal. Et il n'a plus rien et il se considère comme guéri. Et vous ne pouvez pas lui faire admettre, c'est impossible à admettre au niveau mental, au niveau personnel, que peut-être si on n'avait pas fait de dépistage, qu'on n'avait rien fait, il serait dans le même état. C'est impossible à faire comprendre, y compris aux médecins, y compris aux grands universitaires. On doit chercher la cellule cancéreuse, on doit la traquer, on doit l'enlever. Alors, aujourd'hui, c'est déjà, on est arrivé à un point critique au niveau de la relation médecine-société, on est arrivé à un vrai point critique, mais je pense que ça va être un moment très grave et ça va peut-être se régler tout seul. C'est qu'actuellement, on est capable, par exemple, de dépister les cellules tumorales circulantes, c'est-à-dire dans le sang. C'est-à-dire qu'on va vous faire une prise de sang au laboratoire, c'est déjà pratiquement opérationnel, pas tout à fait, mais presque, et on va trouver les cellules cancéreuses circulantes. C'est-à-dire qu'en gros, je peux vous prédire à peu près avec certitude que dans moins de 20 ans, il n'y aura plus une personne vivante dans ce pays qui ne sera pas porteuse d'un cancer.
Ouais.
Donc là, il faudra peut-être prendre une décision au niveau de notre sécurité sociale pour ne pas se mettre à donner de la chimiothérapie à tous ces gens-là. Là, on aura un problème financier qui va apparaître.
Un problème crucial aujourd'hui.
C'est un problème majeur.
Et comment est-ce qu'on peut grandir sachant qu'on a des cellules cancéreuses? Parce qu'évidemment, si à 10 ans, on vous annonce que vous avez des cellules cancéreuses, c'est aussi quelque chose d'épouvantable pour l'individu.
Je ne peux pas répondre à ces questions. Ça me déborde. J'essaye d'y répondre sereinement, de lire la presse, d'informer, de vulgariser la connaissance. Mais il y a derrière ça aussi un pouvoir marchand considérable. Et le plus mauvais aspect de nos démocraties, hélas, qui est la démagogie. Le plan cancer, c'est très démagogique, on ne peut pas s'en passer. Imaginez qu'on dise on arrête les dépistages de masse aujourd'hui, ce qui serait scientifiquement sans doute pas une mauvaise chose, j'ose pas dire une bonne, mais je dirais pas une mauvaise, mais d'un point de vue politique démagogique, c'est inacceptable.
Michel demande, peut-on parler encore de patients à l'heure des dépassements d'honoraires, des refus de certains de soigner les plus pauvres? Le terme clientèle est vraiment plus adapté.
Oui, bien sûr, dit, on
Michel.
Est d'accord, si vous voulez,
qu'est-ce
je suis d'accord
que,
avec
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Il n'y a rien à ajouter, là on est en change de registre, c'est le problème du commerce de la médecine, hein, qui est...
Un exemple, Luc Perrineau, justement, dans ce livre « Les nouveaux paradoxes de la médecine », vous parlez des essais cliniques. C'est intéressant aussi de s'y arrêter quelques instants, très vite, parce qu'il nous reste à peine 2 minutes, mais c'est un des thèmes du livre.
Vous êtes trop dur avec moi.
Mais vous reviendrez, vous reviendrez.
Alors, les essais cliniques, c'est quand même une bonne chose, puisque quand on est arrivé à... Alors, encore une fois, revenons toujours à l'histoire, je crois que ça aide à comprendre. Avant, un médecin, quand il avait quelqu'un qui avait une gangrène, quand il coupait la jambe, il y avait 90% de patients qui étaient sauvés. Et quand il ne coupait pas la jambe, il y avait 100% des patients qui mouraient. Donc, on n'avait pas besoin d'essais cliniques. On savait que pour la gangrène, il fallait couper la jambe. Je peux vous dire la même chose sur le diabète de type 1 avec l'insuline. Si on ne donnait pas l'insuline, les gens mouraient, etc. Et puis après, quand on a attaqué ces problèmes donc de pathologies qui ne sont pas, qui sont des facteurs de risque ou de pathologies chroniques plurifactorielles, multifactorielles, comment faire la preuve que ce que l'on faisait était bien ou mal? C'était impossible. On ne peut pas savoir. Je vous donne ça aujourd'hui et vous serez moins malade dans 20 ou dans 30 ans. Comment je peux en faire la preuve? C'est strictement impossible. Donc on a introduit ce qu'on appelle la médecine probabiliste, basée sur les statistiques, hein, puisque c'est une science probabiliste. Elle est donc basée sur les statistiques. On a introduit cette médecine et on a dit on va comparer des groupes de patients. C'est ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, toute la médecine, j'allais dire actuelle, celle des pathologies qui nous intéressent maintenant, est entièrement basée sur ça, sur les essais cliniques, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine en anglais, EBM, ou médecine basée sur les preuves. On doit faire la preuve statistique que notre action est meilleure que l'abstention ou que telle ou telle autre action. Donc, on n'enseigne plus que ça dans les facultés. Le problème, encore une fois, de cette chose-là, qui est très bien, d'un point de vue scientifique, c'est irréprochable, il n'y a rien à dire. Par contre, tous ces EBM, tous ces essais sont conduits par l'industrie sanitaire. Et aujourd'hui, alors moi, je suis gentil parce que je ne suis pas d'un tempérament méchant, disons que 90% des essais sont à jeter à la poubelle d'un point de vue de la rigueur scientifique. Les gens de la collaboration Cochrane et toutes les méta-analyses disent que c'est 99% qu'il faut jeter à la poubelle. Voilà. Donc moi, je suis très gentil en disant 90%.
Voilà, avec beaucoup d'exemples basés évidemment sur les études scientifiques. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui vous intéresse.
Moi, tout ce que je dis...
Pour parler du diabète, pour parler d'Alzheimer, pour parler de la chimiothérapie, pour parler de l'allaitement,
Bien sûr.
Ça, évidemment, est basé sur un vrai travail de recherche et de littérature scientifique.
Ça ne vient pas du cerveau de Luc Perrineau, c'est de la recherche. Et c'est plein de confrères qui pensent comme moi, mais qui ne peuvent pas le dire, qui n'ont pas...
Vous restez avec nous, Luc Perrineau, parce qu'on va parler dans un instant dans le hashtag l'attaque justement du dépistage du cancer du sein et vous avez un avis tout à fait précis sur cette question.
Avec plaisir.
It's been a while since you seen that sunshine. She asked me why and I said trouble on my mind. That ain't right. That ain't right. There's trouble everywhere, there's trouble all the time. You're always looking for something you'll never find. That ain't right. That ain't right. I've been up and down the 101, the 5, the 99. At least I know that it ain't there, and that's why I left behind. That ain't right. California's in my heart. The currently is torn apart. I'll make it back there someday. If I have my way. See, if I have my way. She said, how could you leave that Pacific Ocean true? Ain't no one over there who knows you like I do. That ain't right. That ain't right. That's just it, when you know it too well, you don't see the view. When you know it too well, sometimes you forget it's blue. And that ain't right. That ain't right. Now I miss California almost much as I miss you. But why would I live somewhere where the bars close it too? That ain't right.
you know what I mean. California's on my mind, not just now but all the time. I'll make it back there someday, if I have my way. Say if I have my way.
Chic, 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 à l'instant sur France Inter.
Hashtag.
Hashtag. L'attaque.
Notre hashtag l'attaque, l'actu science, technologie et web avec aujourd'hui Sophie Bécherel de France Inter, Cécile Bonneau de Science et Vie et Axel Villard pour La Tête au Carré. Bonjour,
salut,
à
salut.
Tous les trois. Quels sont les mots-clés des sujets dont vous allez nous parler, Sophie par exemple?
Base arctique et œnologie.
Cécile?
Orang-outan et anticipation.
Et Axel?
Saint et boobs.
Et on commence avec l'info du jour. Sophie, une initiative en direction des jeunes filles, c'est ça?
Non, je vais vous parler de l'article, mon petit feuilleton à moi.
Ben vous avez changé, alors tant pis.
Tout à fait, pour faire plus court. Le président russe a en effet décidé hier de rouvrir une base militaire en Arctique, une base qui datait de l'époque soviétique. Mm-hmm. Il s'agit pour Vladimir Poutine de surveiller la route maritime du Nord. C'est pour ça que je vous parle de mon feuilleton, hein, le fameux passage du Nord-Est.
C'est vrai.
Désormais libre une partie de l'année suite à la fonte de la banquise. Il s'agit surtout pour les Russes de ne pas perdre de vue les ressources de la région. Ressources pas encore exploitées, mais on le sait, très convoitées. Et comme le président russe ne fait pas les choses à moitié et que la banquise ne fond pas quand même comme ça, ça n'est pas encore une autoroute, eh bien, ce ne sont pas moins de 10 navires de guerre dépêchés sur place, mais derrière 4 brise-glaces qu'on a vu passer. Voilà, la base avait donc été abandonnée il y a 20 ans.
Cécile, je ne me trompe pas si je vous dis que notre sens du toucher est beaucoup plus fin qu'on ne le pensait.
Bah oui, on a tendance à le mépriser un petit peu ce sens par rapport aux autres. Bon, mais en fait, il est incroyablement plus fin que l'idée qu'on s'en fait. Des chercheurs suédois ont réussi à mesurer que nos doigts sont capable de sentir des aspérités pas plus hautes que 13 nanomètres. Pour ramener ça à une échelle connue, si notre doigt était de la taille d'une planète, il saurait sentir la différence entre des maisons et des voitures. Mmh. Donc c'est très intéressant parce que ce sens du toucher, on le sollicite de plus en plus finement avec les écrans tactiles et voilà des perspectives pour encore mieux le solliciter.
Axel, une info autour du Costa Concordia, dont on a beaucoup parlé.
Il a été redressé cette nuit, à 4h du matin. Il reposait depuis plus d'un an sur les côtes italiennes de l'île de Giulio. Et il a fallu un an pour imaginer comment bouger ce monstre qui fait quand même 100 000 tonnes et pèse et mesure plus de 300 mètres de long. Le relevage a duré trois jours pendant lesquels les équipes italiennes et françaises ont manipulé les pales avec précaution. Vous pouvez voir d'ailleurs une infographie sur la page de l'attaque qui détaille tout le processus qu'il fallait imaginer. On va pouvoir maintenant le tracter et le démanteler.
Voilà, donc il y a une petite vidéo pour les auditeurs tout de suite si vous souhaitez la voir. Sophie Bécherel. Nous partons dans le vignoble avec vous, Sophie.
Oui, à Pêche-Rouge dans l'Aude, où l'INRA travaille du cep à la bouteille, pourrait-on dire. Depuis des expériences concluantes de non-taille de la vigne, qui permet de diviser par deux le coût de main-d'œuvre, jusqu'à la mise au point de cépages hybrides, qui seront résistants aux maladies, au idiome ou mildiou, ou même à la sécheresse. Les chercheurs et les ingénieurs ont développé des tas de technologies innovantes là-bas.
Et ça consiste en quoi exactement, Sophie?
Alors, parmi les dernières recherches en cours, celle qui consiste par exemple à utiliser les eaux usées sorties de stations d'épuration pour arroser la vigne et donc économiser la ressource en eau, ou encore la mise au point d'outils pour les vignerons, les fouloirs dynamiques par exemple, qui servent à éclater la baie.
Le fouloir raisins. Dynamique,
oui, ça s'appelle
c'est
comme
joli.
Ça, ouais. Pour en extraire le jus, ou encore l'œnologie de précision.
Et ça, il s'agit de quoi exactement?
Alors, je vais vous citer deux exemples. Dans une bouteille de vin, il arrive qu'il y ait du dépôt, si vous en buvez, vous avez déjà vu ça. Et dans ce dépôt, il y a notamment des petits cristaux de tartre translucides. Ils sont issus de l'acide tartrique, du potassium et du calcium, qui s'associe naturellement pour former ces cristaux de sel. Et ça, le consommateur n'aime pas, pas plus en France d'ailleurs qu'à l'étranger. Et parfois, il y a des productions exportées qui reviennent à l'envoyeur parce qu'il y a ces dépôts de tartre. Alors, l'INRA, pour répondre à cette question, propose une alternative innovante à celle qui existe déjà. Et c'est Jean-Louis Escudier, ingénieur de recherche à Pêche-Rouge, qui nous l'explique.
Il y a deux grandes méthodes, c'est le froid. Alors dans les régions du Nord, on ouvre les portes de la cave l'hiver, il fait froid, le vin refroidit et puis le froid fait tomber vers le bas de la bouteille ce qu'il y a en trop. Une autre méthode, c'est un additif qui s'appelle l'acide métatartrique, sauf qu'il est stable que quelques mois. Donc au bout de 6 mois, 1 an, vous avez le dépôt au fond de la bouteille. Puis maintenant, il y a des nouveaux additifs qui arrivent, mais ils ne sont pas issus du raisin ou du vin. Nous, on a mis une approche où ce qui est en trop, ce qui est en bête, on l'enlève. Alors on l'enlève par des membranes, par une filtration serrée, quand il s'agit de bactéries de levure, par les électroprocédés quand il s'agit d'enlever un excès de potassium. Nous, on appelle ça l'œnologie de précision.
Voilà, l'électroprocédé, hein, c'est l'électrodialyse sur membrane qui consiste schématiquement à enlever les ions négatifs et positifs en faisant passer un courant électrique dans la membrane sur laquelle on verse le vin. Alors, ces technologies, elles sont désormais passées au stade industriel, mais en étant mobiles, c'est-à-dire qu'avec un camion et une remorque, il y a des sociétés qui se déplacent chez les vignerons qui veulent traiter leur vin. Ça marche pour l'affaire du tartre, hein, dont on vient de parler, mais aussi pour désalcooliser le vin, nous explique le gérant de Gemstar, Éric Lecoeuvre.
Nous avons des vins qui sont de plus en plus alcoolisés du fait d'une part des méthodes culturales et un petit peu aussi par les changements climatiques. Des vins à 15-16 degrés, c'est difficile à boire. Et l'objet de cette technologie-là, c'est d'avoir des vins sur lesquels on pousse les maturités au moment de la récolte et des vendanges pour avoir des vins les mieux structurés et sur lesquels on va enlever l'alcool excédentaire pour avoir des vins à 12 ou 13 degrés qui sont des vins plus faciles à boire, mais tout en gardant la structure et la qualité du produit. On arrive avec nos installations, nos remorques et nos camions, et dans une journée ou sur plusieurs journées suivant les volumes, nous traitons les vins chez nos clients.
Voilà, alors fouloir dynamique, procédé d'œnologie de précision, tout ça, on l'a mis sur Internet avec quelques interviews complémentaires et des photos.
Voilà, avec des photos sur le site et sur la page Facebook de La Tête au Carré, Sophie.
Ben
oui, on en a une depuis aujourd'hui et elle vient d'être créée, effectivement. Axel, vous nous avez annoncé la couleur tout à l'heure, vous nous parlez de sein et de boobs.
Oui, mais il faut choisir, alors boobs ou sein en premier.
Bon, on va parler peut-être de sein, sera peut-être...
Plus joyeux.
Je ne sais pas, dites-moi.
Mais alors... Plus ou moins joyeux, on verra. En tout cas, ce dont je vous parlais, c'est d'une étude menée aux États-Unis, publiée hier, hein, dans une revue qui s'appelle Annals of Internal Medicine. Elle montre que sur 100 femmes de moins de 40 ans opérées d'un cancer du sein, 23 ont souhaité se faire retirer le deuxième sein en même temps que le premier. Et sans aucune incitation des médecins qui rappelaient que pour le moment, aucune étude garantit ni un meilleur taux de survie, ni une prolongation de l'expérience de vie. Une démarche complètement autonome et pour le moins intéressante. J'ai contacté Monsieur Joyeux, ouais, je vous l'avais dit, Monsieur Joyeux est chirurgien et cancérologue à l'Université de Montpellier. Voici ce qu'il en pense.
Ce qui est important à considérer, c'est que les cancérologues ont donné des avis négatifs en disant aux femmes, c'est pas la peine d'enlever le deuxième sein. Mais en même temps, il y a la terreur d'avoir effectivement une atteinte du deuxième sein. Donc on peut comprendre ces femmes qui disent, écoutez, moi j'ai pas envie d'avoir une lésion sur votre sein, je sais tout ce que ça représente, donc vous me l'enlevez.
Il a aussi insisté sur le fait que les cas de récidive ne se résument pas à ce choix de la double mastectomie. C'est comme ça que ça s'appelle, écoutez.
Ce qui est important à dire aux femmes, c'est qu'il y a des comportements de santé qui peuvent être protecteurs et d'autres qui sont inducteurs. Quels sont les protecteurs ? Eh bien, par exemple, avoir un enfant et l'allaiter au moins 6 mois. Qu'est-ce que c'est qui est inducteur ? C'est avoir du surpoids, c'est manger trop de gras, trop de sucre, c'est consommer des hormones, que ce soit un traitement hormonal de la ménopause ou que ce soit la pilule, consommer plus d'un certain nombre d'années, disons plus de 5 ans.
Alors, Luc Périnon, on peut avoir une réaction de votre part parce qu'évidemment, elle serait intéressante à entendre.
On a parlé de prévention, de dépistage et de traitement. On a parlé des trois, en fait. Donc, mais c'est trois sujets différents pour le cancer. En ce qui concerne le cancer du sein, je suppose que cette femme, elle avait des BRCA1 et 2 positifs.
Pas toutes les femmes de l'étude.
La demande de la patiente est vraiment étonnante. Effectivement, ce n'est pas une conduite en France qui est encouragée par le médecin, ça c'est sûr. En ce qui concerne donc le sein, il faut bien distinguer le dépistage dit ciblé et le dépistage dit de masse, qui s'appelle dépistage organisé en France. Le dépistage ciblé semble faire la preuve d'une certaine utilité et efficacité, il n'y a pas de doute. Le dépistage organisé fait de plus en plus la preuve de sa totale inutilité.
Hein, voilà, c'est ce que c'est vous clair. Écrivez aussi précisément.
Mais ce n'est pas moi qui l'écris, hein, c'est des gens bien plus compétents que moi.
Mais il y a tout un chapitre sur cette question justement des cancers du sein dans les nouveaux paradoxes de la médecine. On parlera donc des boobs dans quelques instants, Axel, avec vous. Cécile, vous nous parlez d'animaux qui sont capables d'anticiper leur journée du lendemain. Alors, c'est très étonnant comme étude.
Mais alors avant tout, Mathieu, je voudrais vous faire entendre quelque chose. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez en Indonésie, dans la forêt de Sumatra, perché sur un arbre, à moins de 1 km d'un mâle orang-outan dominant. Tout, tout va bien, pas de réaction particulière.
Ça, c'est l'orang-outan qu'on entend ?
Oui. Alors, visiblement, vous conservez votre calme habituel, mais si vous étiez un jeune orang-outan, je vous prie de croire que vous auriez déjà allègrement décampé. En revanche, si vous étiez une femelle orang-outan accompagnée de petits en bas âge, vous vous sentiriez particulièrement rassurée et vous n'hésiteriez pas à vous rapprocher de l'auteur du cri.
Ah oui, et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cri, alors, pour susciter tous ces effets différents hein ?
Alors, ce cri, c'est un long call, comme l'appellent les éthologues, c'est-à-dire un long appel en français. Il faut savoir que les orang-outans ont toute une panoplie de cris que vous pouvez découvrir en lien sur le site et que celui-ci est utilisé par les mâles qui se déplacent sur leur territoire dans le but de se faire localiser par leurs congénères. Donc on peut entendre ce cri à plus d'un kilomètre à la ronde et il sert donc à éloigner les autres mâles et à attirer les femelles en vue d'accouplement ou pour les protéger.
Mais en quoi ça nous renseigne sur leur capacité d'anticipation ? Parce que c'était votre sujet tout à l'heure.
Tout à fait. Figurez-vous que des chercheurs de l'université de Zurich qui ont précisément analysé les caractéristiques de ces cris, leur direction, les déplacements de leurs auteurs et la réaction des congénères, ces chercheurs ont remarqué que les orang-outans annonçaient à l'avance la direction qu'ils prendraient. Parfois même, ils l'annoncent dès la veille. Donc quand le mâle émet ses cris le soir, puis reprend sa route le matin sans prendre la peine de recrier, eh bien les autres individus empruntent la bonne direction, soit pour l'éviter, soit pour le rejoindre.
Veille, donc,
tout à fait. Donc ça n'a l'air de rien, mais ça signifie que l'orang-outan, avant de s'endormir pour la nuit, a déjà en tête son programme du lendemain. Et ça, c'est probablement la première expérience qui montre sans ambiguïté une capacité d'anticipation chez un animal, du moins chez un animal en liberté. Parce qu'en captivité, on avait déjà remarqué ça, notamment dans les zoos, hein, il y a des chimpanzés qui stockent les cailloux pendant les heures de fermeture pour les balancer sur les spectateurs et visiteurs.
Vrai, le lendemain, c'est vrai.
Mais rien ne prouvait que c'était une capacité utilisée dans la nature, parce qu'il est très difficile de concevoir des expériences qui le prouvent. Et là, c'est rendu possible justement parce qu'il se trouve que cet animal, dans ce cas précis, communique ses intentions à son entourage. Mais l'auteur est d'ailleurs persuadé que l'anticipation est présente chez d'autres animaux, notamment d'autres grands singes, et que ce n'est pas le propre de l'homme comme on l'a longtemps imaginé.
Bon, c'est pas mal, hein ? Belle étude.
Il fait mieux que moi, Laurent, autant.
Vous l'anticipez pas du tout, vous avez trop de travail, Sophie, c'est pour ça. On passe à votre dernière info, Axel, c'était le mot boobs.
Oui, est-ce que vous connaissez le site Boobstagram ?
Non, je ne le connais pas. Est-ce que Luc Perrineau, vous le connaissez ? Boobstagram, ça vous dit bien non plus.
Bon, alors, boobs, diminutif de boobies, qui veut dire sein en anglais. Je vous donne le slogan du site. Montrez vos seins sur Internet, c'est bien, mais les montrer à votre médecin, c'est mieux.
Voilà.
Le principe est
très simple. Il propose à vous toutes, mesdames, de poster des photos de vos seins anonymement pour soutenir la lutte contre le cancer.
C'est du marketing.
C'est le cause-related marketing, on appelle ça. On sensibilise là-dessus. Il y a Octobre Rose qui arrive, là.
C'est vrai.
Il y a deux, trois détails, Montrez-nous du suggestif, pas de nudité, et laissez faire les équipes de Boobstagram. Ils sont très actifs sur les réseaux, ils font du buzz, mais aussi de la sensibilisation, de la veille. Et Boobstagram aussi organise des soirées qui s'appellent les Boobstagram Parties, où le décolleté et le burlesque sont à l'honneur. Tous les fonds récoltés sont reversés à des associations.
Ouais.
C'est simple et c'est très efficace.
Voilà, donc on peut voir ça en ce moment, c'est ça hein ?
Ah, on peut voir ça tout le temps sur Internet, sur Twitter, sur les réseaux. Et il y a une question qu'on peut se poser, c'est dans tous les abonnés qu'ils ont, parce qu'ils en ont plus de 20 000, combien sont des hommes et combien sont des femmes ?
Ah, et ça, on ne le sait pas.
Voilà.
Et
alors, on le sait à moitié, on le sait sur Twitter. On ne le sait pas sur Twitter, pardon, mais sur Facebook, on sait que 40% sont des femmes.
Oui.
Et il y a même des femmes qui incitent des hommes à poster leurs photos pour elles sur Internet.
En tout cas, le dépistage, effectivement, on va beaucoup en parler avec l'opération Octobre Rose.
Ah oui, qui arrive là. Alors, encore, France Inter participe beaucoup à la promotion d'Octobre Rose.
On s'en fait l'écho beaucoup.
Mes impôts participent beaucoup à ça.
Merci Luc Perrineau pour ce mot de fin de cette émission. Bon retour à Lyon, merci d'être venu et merci à tous les trois. Chers amis du hashtag LaTag, on se retrouve la semaine prochaine. Notre hashtag LaTag, l'actu science, technologie et web avec aujourd'hui Sophie Bécherel de France Inter, Cécile Bonneau de Science et Vie et Axel Villard pour La Tête au Carré. Bonjour à tous les trois. Quels sont les mots-clés des sujets dont vous allez nous parler, Sophie par exemple ?
Base arctique et œnologie.
Cécile ?
Orang-outan et anticipation.
Et Axel ?
Seins et boobs.
Et on commence avec l'info du jour. Sophie, une initiative en direction des jeunes filles, c'est ça ?
Non, je vais vous parler de l'article, mon petit feuilleton à moi.
Ben vous avez changé, alors tant pis.
Tout à fait, pour faire plus court. Le président russe a en effet décidé hier de rouvrir une base militaire en Arctique, une base qui datait de l'époque soviétique. Mm-hmm. Il s'agit pour Vladimir Poutine de surveiller la route maritime du Nord. C'est pour ça que je vous parle de mon feuilleton, hein, le fameux passage du Nord-Est.
C'est vrai.
Désormais libre une partie de l'année suite à la fonte de la banquise. Il s'agit surtout pour les Russes de ne pas perdre de vue les ressources de la région. Ressources pas encore exploitées, mais on le sait, très convoitées. Et comme le président russe ne fait pas les choses à moitié et que la banquise ne fond pas quand même comme ça, ça n'est pas encore une autoroute, eh bien, ce ne sont pas moins de 10 navires de guerre dépêchés sur place, mais derrière 4 brise-glaces qu'on a vu passer. Voilà, la base avait donc été abandonnée il y a 20 ans.
Cécile, je ne me trompe pas si je vous dis que notre sens du toucher est beaucoup plus fin qu'on ne le pensait.
Bah oui, on a tendance à le mépriser un petit peu ce sens par rapport aux autres. Bon, mais en fait, il est incroyablement plus fin que l'idée qu'on s'en fait. Des chercheurs suédois ont réussi à mesurer que nos doigts sont capable de sentir des aspérités pas plus hautes que 13 nanomètres. Pour ramener ça à une échelle connue, si notre doigt était de la taille d'une planète, il saurait sentir la différence entre des maisons et des voitures. Mmh. Donc c'est très intéressant parce que ce sens du toucher, on le sollicite de plus en plus finement avec les écrans tactiles et voilà des perspectives pour encore mieux le solliciter.
Axel, une info autour du Costa Concordia, dont on a beaucoup parlé.
Il a été redressé cette nuit, à 4h du matin. Il reposait depuis plus d'un an sur les côtes italiennes de l'île de Giulio. Et il a fallu un an pour imaginer comment bouger ce monstre qui fait quand même 100 000 tonnes et pèse et mesure plus de 300 mètres de long. Le relevage a duré trois jours pendant lesquels les équipes italiennes et françaises ont manipulé les pales avec précaution. Vous pouvez voir d'ailleurs une infographie sur la page de l'attaque qui détaille tout le processus qu'il fallait imaginer. On va pouvoir maintenant le tracter et le démanteler.
Voilà, donc il y a une petite vidéo pour les auditeurs tout de suite si vous souhaitez la voir. Sophie Bécherel. Nous partons dans le vignoble avec vous, Sophie.
Oui, à Pêche-Rouge dans l'Aude, où l'INRA travaille du cep à la bouteille, pourrait-on dire. Depuis des expériences concluantes de non-taille de la vigne, qui permet de diviser par deux le coût de main-d'œuvre, jusqu'à la mise au point de cépages hybrides, qui seront résistants aux maladies, au idiome ou mildiou, ou même à la sécheresse. Les chercheurs et les ingénieurs ont développé des tas de technologies innovantes là-bas.
Et ça consiste en quoi exactement, Sophie?
Alors, parmi les dernières recherches en cours, celles qui consistent par exemple à utiliser les eaux usées sorties de station d'épuration pour arroser la vigne et donc économiser la ressource en eau, ou encore la mise au point d'outils pour les vignerons, les fouloirs dynamiques par exemple qui servent à éclater la baie.
Le fouloir dynamique,
oui, ça s'appelle
c'est
comme
joli.
Ça, ouais. Pour en extraire le jus, ou encore l'œnologie de précision.
Et ça, il s'agit de quoi exactement?
Alors, je vais vous citer deux exemples. Dans une bouteille de vin, il arrive qu'il y ait du dépôt. Si vous en buvez, vous avez déjà vu ça. Et dans ce dépôt, il y a notamment des petits cristaux de tartre translucides. Ils sont issus de l'acide tartrique, du potassium et du calcium qui s'associe naturellement pour former ces cristaux de sel. Et ça, le consommateur n'aime pas, pas plus en France d'ailleurs qu'à l'étranger. Et parfois, il y a des productions exportées qui reviennent à l'envoyeur parce qu'il y a ces dépôts de tartre. Alors, l'INRA, pour répondre à cette question, propose une alternative innovante à celle qui existe déjà. Et c'est Jean-Louis Escudier, ingénieur de recherche à Pêche-Rouge, qui nous l'explique.
Il y a deux grandes méthodes, c'est le froid. Alors, dans les régions du Nord, on ouvre les portes de la cave l'hiver, il fait froid, le vin refroidit, et puis le froid fait tomber vers le bas de la bouteille ce qu'il y a en trop. Une autre méthode, c'est un additif qui s'appelle l'acide métatartrique, sauf qu'il est stable que quelques mois. Donc, au bout de 6 mois, 1 an, vous avez le dépôt au fond de la bouteille. Puis maintenant, il y a des nouveaux additifs qui arrivent, mais ils ne sont pas issus du raisin ou du vin. Nous, on a mis une approche où ce qui est en trop, ce qui est en bête, on l'enlève. Alors, on l'enlève par des membranes, par une filtration serrée, quand il s'agit de bactéries de levure, par les électroprocédés quand il s'agit d'enlever un excès de potassium. Nous, on appelle ça l'œnologie de précision.
Voilà, l'électroprocédé, hein, c'est l'électrodialyse sur membrane qui consiste schématiquement à enlever les ions négatifs et positifs en faisant passer un courant électrique dans la membrane sur laquelle on verse le vin. Alors, ces technologies, elles sont désormais passées au stade industriel, mais en étant mobiles, c'est-à-dire qu'avec un camion et une remorque, il y a des sociétés qui se déplacent chez les vignerons qui veulent traiter leur vin. Ça marche pour l'affaire du tartre, hein, dont on vient de parler, mais aussi pour désalcooliser le vin, nous explique le gérant de Gemstar. Éric Lecoeuvre.
Nous avons des vins qui sont de plus en plus alcoolisés du fait d'une part des méthodes culturales et un petit peu aussi par les changements climatiques. Des vins à 15-16 degrés, c'est difficile à boire. Et l'objet de cette technologie-là, c'est d'avoir des vins sur lesquels on pousse les maturités au moment de la récolte et des vendanges, pour avoir des vins les mieux structurés et sur lesquels on va enlever l'alcool excédentaire pour avoir des vins à 12 ou 13 degrés, qui sont des vins plus faciles à boire, mais tout en gardant la structure et la qualité du produit. On arrive avec nos installations, nos remorques et nos camions, et dans une journée ou sur plusieurs journées suivant les volumes, nous traitons les vins chez nos clients.
Voilà, alors fouloir dynamique, procédé oui. d'œnologie de précision, tout ça, on l'a mis sur Internet avec quelques interviews complémentaires et des photos.
Voilà, avec des photos sur le site et sur la page Facebook de La Tête au Carré, Sophie.
Ben
oui, on en a une depuis aujourd'hui et elle vient d'être créée, effectivement. Axel, vous nous avez annoncé la couleur tout à l'heure, vous nous parlez de Saint et de Boops.
Oui, mais il faut choisir, alors Boops ou Saint en premier.
Bon, on va parler peut-être de Saint, sera peut-être...
Plus joyeux.
Je ne sais pas, dites-moi.
Mais alors... Plus ou moins joyeux, on verra. En tout cas, ce dont je vous parlais, c'est d'une étude menée aux États-Unis, publiée hier, dans une revue qui s'appelle Annals of Internal Medicine. Elle montre que sur 100 femmes de moins de 40 ans opérées d'un cancer du sein, 23 ont souhaité se faire retirer le deuxième sein en même temps que le premier. Et sans aucune incitation des médecins qui rappelaient que pour le moment, aucune étude garantit ni un meilleur taux de survie, ni une prolongation de l'expérience de vie. Une démarche complètement autonome et pour le moins intéressante. J'ai contacté Monsieur Joyeux, ouais, je vous l'avais dit, Monsieur Joyeux est chirurgien et cancérologue à l'Université de Montpellier. Voici ce qu'il en pense.
Ce qui est important à considérer, c'est que les cancérologues ont donné des avis négatifs en disant aux femmes, c'est pas la peine d'enlever le deuxième sein. Mais en même temps, il y a la terreur d'avoir effectivement une atteinte du deuxième sein. Donc on peut comprendre ces femmes qui disent, écoutez, moi j'ai pas envie d'avoir une lésion sur l'autre sein, je sais tout ce que ça représente, donc vous me l'enlevez.
Il a aussi insisté sur le fait que les cas de récidive ne se résument pas à ce choix de la double mastectomie. C'est comme ça que ça s'appelle, écoutez.
Ce qui est important à dire aux femmes, c'est qu'il y a des comportements de santé qui peuvent être protecteurs et d'autres qui sont inducteurs. Quels sont les protecteurs ? Eh bien, par exemple, avoir un enfant et l'allaiter au moins 6 mois. Qu'est-ce que c'est qui est inducteur ? C'est avoir du surpoids, c'est manger trop de gras, trop de sucre, c'est consommer des hormones, que ce soit un traitement hormonal de la ménopause ou que ce soit la pilule, consommer plus d'un certain nombre d'années, disons plus de 5 ans.
Alors, Luc Périnot, on peut avoir une réaction de votre part parce qu'évidemment, elle serait intéressante à entendre.
On a parlé de prévention, de dépistage et de traitement. On a parlé des trois, en fait. Donc, mais c'est trois sujets différents pour le cancer. En ce qui concerne le cancer du sein, je suppose que cette femme, elle avait des BRCA1 et 2 positifs.
Pas toutes les femmes de l'étude.
La demande de la patiente est vraiment étonnante. Effectivement, ce n'est pas une conduite en France qui est encouragée par le médecin, ça c'est sûr. En ce qui concerne donc le sein, il faut bien distinguer le dépistage dit ciblé et le dépistage dit de masse, qui s'appelle dépistage organisé en France. Le dépistage ciblé semble faire la preuve d'une certaine utilité et efficacité, il n'y a pas de doute. Le dépistage organisé fait de plus en plus la preuve de sa totale inutilité.
Hein. Voilà, c'est ce que vous écrivez aussi précisément.
Mais ce n'est pas moi qui l'écris, c'est des gens bien plus compétents que moi.
Mais il y a tout un chapitre sur cette question justement des cancers du sein dans les nouveaux paradoxes de la médecine. On parlera donc des boops dans quelques instants, Axel, avec vous. Cécile, vous nous parlez d'animaux qui sont capables d'anticiper leur journée du lendemain. Alors ça, c'est très étonnant comme étude.
Mais alors avant tout, Mathieu, je voudrais vous faire entendre quelque chose. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez en Indonésie, dans la forêt de Sumatra, perché sur un arbre, à moins de 1 km d'un mâle orang-outan dominant. Tout va bien, pas de réaction particulière.
Ça, c'est l'orang-outan qu'on entend ?
Oui. Alors, visiblement, vous conservez votre calme habituel, mais si vous étiez un jeune orang-outan, je vous prie de croire que vous auriez déjà allègrement décampé. En revanche, si vous étiez une femelle orang-outan accompagnée de petits en bas âge, vous vous sentiriez particulièrement rassurée et vous n'hésiteriez pas à vous rapprocher de l'auteur du cri.
Ah oui, et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cri, alors, pour susciter tous ces effets différents
Alors, ce cri, c'est un long call, comme l'appellent les éthologues, c'est-à-dire un long appel en français. Et il faut savoir que les orang-outans ont toute une panoplie de cris que vous pouvez découvrir en lien sur le site et que celui-ci est utilisé par les mâles qui se déplacent sur leur territoire dans le but de se faire localiser par leurs congénères. Donc on peut entendre ce cri à plus d'un kilomètre à la ronde et il sert donc à éloigner les autres mâles et à attirer les femelles en vue d'accouplement ou pour les protéger.
Mais en quoi ça nous renseigne sur leur capacité d'anticipation ? Parce que c'était votre sujet tout à l'heure.
Figurez-vous que des chercheurs de l'université de Zurich qui ont précisément analysé les caractéristiques de ces cris, leur direction, les déplacements de leurs auteurs et la réaction des congénères, ces chercheurs ont remarqué que les orang-outans annonçaient à l'avance la direction qu'ils prendraient. engendrait. Parfois même, il l'annonce dès la veille. Donc quand le mâle émet ses cris le soir, puis reprend sa route le matin sans prendre la peine de recrier, eh bien les autres individus empruntent la bonne direction, soit pour l'éviter, soit pour le rejoindre.
Veille, donc,
tout à fait. Donc ça n'a l'air de rien, mais ça signifie que l'orang-outan, avant de s'endormir pour la nuit, a déjà en tête son programme du lendemain. Et ça, c'est probablement la première expérience qui montre sans ambiguïté une capacité d'anticipation chez un animal, du moins chez un animal en liberté. Parce qu'en captivité, on avait déjà remarqué ça, notamment dans les zoos. Il y a des chimpanzés qui stockent les cailloux pendant les heures de fermeture pour les balancer sur les spectateurs,
oui,
les visiteurs.
Vrai, le lendemain, c'est vrai.
Mais rien ne prouvait que c'était une capacité utilisée dans la nature, parce qu'il est très difficile de concevoir des expériences qui le prouvent. Et là, c'est rendu possible justement parce qu'il se trouve que cet animal, dans ce cas précis, communique ses intentions à son entourage. Mais l'auteur est d'ailleurs persuadé que l'anticipation est présente chez d'autres animaux, notamment d'autres grands singes, et que ce n'est pas le propre de l'homme comme on l'a longtemps imaginé.
Bon, c'est pas mal, hein. Belle étude.
Il fait mieux que moi, Laurent, autant.
Vous l'anticipez pas du tout, vous avez trop de travail, Sophie, c'est pour ça. On passe à votre dernière info, Axel, c'était le mot boobs.
Oui, est-ce que vous connaissez le site Boobstagram?
Non, je ne le connais pas. Est-ce que Luc Perrineau, vous le connaissez? Boobstagram, ça vous dit bien non plus.
Bon, alors, boobs, diminutif de boobies, qui veut dire sein en anglais. Je vous donne le slogan du site. Montrez vos seins sur Internet, c'est bien, mais les montrer à votre médecin, c'est mieux.
Voilà.
Le principe est très simple. Il propose à vous toutes, mesdames, de poster des photos de vos seins anonymement pour soutenir la lutte contre le cancer.
C'est du marketing. La règle est cause marketing, on appelle ça. On sensibilise là-dessus. Il y a Octobre Rose qui arrive, là.
C'est vrai.
Il y a deux, trois détails, Montrez-nous du suggestif, pas de nudité, et laissez faire les équipes de Boobstagram. Ils sont très actifs sur les réseaux, ils font du buzz, mais aussi de la sensibilisation, de la veille. Et Boobstagram aussi organise des soirées qui s'appellent les Boobstagram Parties, où le décolleté et le burlesque sont à l'honneur. Tous les fonds récoltés sont reversés à des associations.
Ouais.
C'est simple et c'est très efficace.
Voilà, donc on peut voir ça en ce moment, c'est ça, hein?
On peut voir ça tout le temps sur Internet, sur Twitter, sur les réseaux. Et il y a une question qu'on peut se poser, c'est dans tous les abonnés qu'ils ont, parce qu'ils en ont plus de 20 000, combien sont des hommes et combien sont des femmes?
Ah, et ça, on ne le sait pas.
Voilà.
Et
alors, on le sait à moitié. On le sait sur Twitter. On ne le sait pas sur Twitter, pardon, mais sur Facebook, on sait que 40% sont des femmes.
Oui.
Et il y a même des femmes qui incitent des hommes à poster leurs photos pour elles sur Internet.
En tout cas, le dépistage, effectivement, on va beaucoup en parler avec l'opération Octobre Rose.
Ah oui, qui arrive là. France Inter participe beaucoup à la promotion d'Octobre Rose.
On s'en fait l'écho beaucoup.
Mes impôts participent beaucoup à ça.
Merci Luc Perrineau pour ce mot de fin de cette émission. Bon retour à Lyon, merci d'être venu et merci à tous
vous.
Les trois. Chers amis du hashtag La Tag, on se retrouve la semaine prochaine.